Rock and Roll Suicide, un podcast entièrement réalisé par moi-même, Pascal Després. Aujourd'hui, le Velvet Underground, épisode 1. Mars 42 à Brooklyn, John Cale une semaine plus tard au Pays de Galles, Nico le 16 octobre 38 à Cologne, Sterling Morrison le 29 août 42 près de chez Lou Reed à Long Island et Maureen Tucker le 26 août 44 à New York. Le groupe se nomme le Velvet Underground. C'est de ce mélange hétéroclite que naîtra un album qui va marquer l'histoire de la musique rock du 20e siècle à nos jours. Déménage à Freeport, Long Island, en 53. Une banlieue où les maisons ressemblent aux maisons, où les rues ressemblent aux rues, où règne un ennui mortel. Pour Lou, la radio sera le révélateur qu'une autre planète existe. C'est le rock et le blues des noirs déclassés et des blancs du sud, pas mieux lotis. Je viens de nulle part, je dis bien de nulle part, l'endroit le plus ennuyé de la Terre. La seule chose de bien là-bas, c'était de savoir qu'on allait se tirer. Il écrit beaucoup, est attiré par New York et ses barlouches, se met à la guitare et a une petite amie. The Shades, groupe où Lou fait ses premiers pas à 16 ans, en costume pailleté et lunettes noires, sort un single gravé à New York, So Blue, en septembre 58. Le Velvet Underground, un nom qui fascine et en révulse certains. Leur premier disque est sorti en 67, produit par Andy Warhol. Son travail avant-gardiste est en phase avec leur expérimentation sonore. On leur a collé toutes les étiquettes, les mettant sur un piédestal, ayant posé les bases du mouvement punk, subversif, visionnaire, drogué, homosexuel, inaudible, agressif. En fait, c'est surtout Lou Reed, membre fondateur et leader jusqu'en 70, date à laquelle il quitte le groupe pour une carrière solo, qui projettera ses images au travers de ses textes et de sa personnalité provocatrice. On verra que le Velvet brilla tout autant pour sa rage sonore que dans des chansons beaucoup plus poétiques et douces. It's just a restless feeling by my side. Early dawning, Sunday morning. It's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Lou Reed était quelqu'un de complexe, mais il savait ce qu'il voulait et comment y arriver. Mon idéal, c'est le rock, un pouvoir obscur qui pouvait changer une vie. Je voue un culte à la guitare. Il représente tout ce que la morale conservatrice rejette. Il ne faisait pas dans le compromis lorsqu'il était question de son art, qu'il plaçait au même niveau que la peinture, la littérature et le cinéma. Il pouvait devenir agressif et vicieux. Adolescent, il souffre rapidement de l'autoritarisme de son père. Pris de peur, panique, angoissé, il s'enferme dans sa chambre avec la radio pour ami et écrit des textes et des poèmes. À l'époque, la musique qui explosait sur les ondes, le rock, le twist, le doo-wop, n'était pas construite sur des paroles très originales. Les filles, la danse, le surf, bref, il connaissait les paroles de tous les hits du moment. Il fallait écouter de la folk, Woody Guthrie et plus tard Dylan pour entendre quelque chose qui ne soit pas mièvre. Mais quand il enregistre pour la première fois vers 16 ans, il ne savait jouer que 3 accords et c'était magique pour lui. Comme le blues, qui sur un seul accord peut rendre une histoire intense. Pas d'histoire dans le rock, des paroles stupides donc. À 10 ans, il prend des cours de piano, mais ce qu'il veut, c'est la guitare. Son professeur lui fournit une méthode, mais Lou revient avec le 45 tours de Carl Perkins, Blues with Shoes. Les cours n'iront pas plus loin. Well, it's one for the money, two for the show. Free to get ready now, go cat go, but don't you step on my blue suede shoe. Do anything but lay off of my blue suede shoe. So knock me down, step in my face, slander my name all over the place, and do anything you want to do. But ha, ah, baby, lay off of my shoes, and don't you step on the blue suede shoe. You can do anything but lay off of my blue suede shoe. Now let's rock, cat. Se sentait rejeté, chez lui comme au lycée. Il se rend de plus en plus souvent à New York, acheter de l'herbe, s'imprégner de la ville et son obscurité. et fréquente des bars gays. Sa bisexualité se confirme. Ses écrits et poèmes sont clairs à ce sujet. Il développe aussi un tempérament dépressif amorcé par la rigidité de son père et son isolement. À force de le voir sombrer dans l'angoisse, ses parents, inquiétés par son état et ses tendances bisexuelles, s'en remettent au médecin qui le diagnostique comme schizophrène et lui impose des séances d'électrochoc à raison de 3 par semaine pendant 2 mois. C'était le même voltage pour tous. Il se souviendra en être ressorti légumifié et sans doute plus profondément impacté qu'on ne le pensait à l'époque où l'homosexualité était un délit et la psychiatrie assez balbutiante. Lou Reed rentre à l'université de Syracuse en septembre 1960. Il y montra un groupe, LA and the Eldorados. Lou devient de plus en plus provocateur et agressif. Vite repéré, il devient pourtant responsable de la programmation sur la radio du campus. Excursion on a Wobbly Train, un titre de Cécile Taylor. L'émission est tournée vers le jazz et le rock. Ornette Coleman et John Coltrane ne lui laissent pas le temps de s'installer. Il est viré rapidement. Sur le campus, d'autres jeunes avaient été touchés par la vague rock. Et c'est là qu'il rencontrera Sterling Morrison, qui était son voisin du dessus. Entendant les morceaux qu'il écoutait, Lou va taper à sa porte. Comme il était encore programmateur sur la radio du campus, les deux se voient déjà passer leurs 45 tours. Mais le retrait de Lou mit fin au projet. 1961 sera l'époque où le groupe de Lou joue à peu près n'importe où et n'importe quoi. Nous étions si mauvais que l'on changeait de nom pour continuer à être programmé, dit Lou Reed. En 1962, il dépose les droits de Your Love, dont il est l'auteur et qui sera enregistré plus tard avec Bob Shadd, un vétéran de l'industrie musicale travaillant pour Mercury. Il publie, aidé par Jim Tucker, Un magazine littéraire, Lonely Woman Quarterly, en hommage au Lonely Woman d'Ornette Coleman. La critique du système et des textes sur la maltraitance enfantine auront raison de cette tentative. Été 62. Lou s'ennuie de sa petite amie Shelley Albine. Il lui écrit régulièrement des nouvelles, dont The Gift, qui donnera naissance à une chanson du deuxième album. L'histoire d'un jeune homme qui se poste lui-même à sa petite amie et qui se finira dans un bain de sang. Malgré les zones d'ombre de sa vie, Lou tenait à Shelley. Il lui écrira deux chansons, Pale Blue Eyes et I'll Be Your Mirror. Entré en troisième année à Syracuse, il se plonge dans la littérature du mouvement beatnik, Kerouac, Ginsberg, Hubert Selby Jr. Il trouve le sens que va prendre son œuvre, mettre ses textes en musique.
The Bowery Blues. Cooper Union Cafeteria. Late cold March afternoon. The street, Third Avenue, is cobbled, cold, desolate with trolley tracks. Some guy on the corner is waving his hand down, knowing somebody emphatically. And out of sight behind a black and white pillar, cold clowns in the moment horror of the world. A Puerto Rican kid with a green stick stooping to bat the sidewalk, but changing his mind and halting on. Two new small trucks parked. The withery gray rose stone building across the street with its rhyme heights in the quiet winter sky. Inside are quiet workers by neon and tablatures practicing fanning lessons with the murderous Marbles.
Il rencontre Delmar Schwartz, brillant auteur de In Dreams Begin Responsibilities, qui est reconnu depuis son travail à Harvard et avec qui il étudie Joyce, Yeats et Keats. Mais Schwartz était déjà dans une spirale schizoïde, alcool, paranoïa. Il devint un mentor pour Lou, qui lui dédicacera une chanson sur le premier album. Il meurt à moitié fou en 1966. C'est ici donc que la forme unique et brillante des textes de Lou prendra racine. À cette époque, sa consommation de drogue s'amplifie. Il écrit « Heroine » et « I'm waiting for the man ». Face aux névroses de Lou, Shelley finit par le quitter.
You pay your half buck for death with pack. Trust your bad luck and smoke in the sack. Don't smoke, don't smoke, don't smoke nicotine, nicotine, it's so obscene. No smoke, dope, 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 the official dope, 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 don't smoke, don't smoke. To 75 million in greens, what Madison Avenue gets to advertise nicotine and hook you radical brats. Don't smoke, don't smoke, don't smoke, dope, dope, nope, 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 dope.
Fin 62, Lou Reed retourne en studio avec Bob Shadd aux manettes et enregistre deux chansons en solo, Your Love et Merry Go Round. L'accompagnement est dense, les sidemen sont de bons musiciens et si rien n'indique si Lou joue de la guitare, c'est bien lui qui chante. mélange de R&B, pop et rock 60s plutôt fougueux, on y entend ce timbre unique qui fera sa marque. Le disque ne sera jamais diffusé alors qu'il était largement au niveau de la production du moment. En 1963, Lou assiste à un concert de Bob Dylan. Ce chanteur à la voix si typée et au texte engagé le pousseront à s'y mettre aussi.
Good afternoon, ladies and gentlemen. You'll excuse the fact that I'm out of breath, but about 10 or 15 minutes ago, a tragic thing, from all indications, at this point has happened in the city of Dallas.
Le 22 novembre, l'assassinat de Kennedy aura un fort impact sur son rapport à l'espoir d'une société plus libre. Et même si beaucoup d'affaires troublent le mandat du jeune président, il en restera choqué au point d'écrire une chanson sur The Blue Mask, album solo de 82.
Prominent men will tear out your eyes.
Déjà consommateur de drogue de toutes sortes, c'est à cette époque qu'il touche à l'héroïne pour la première fois. C'est l'hépatite directe. Du coup, il passera aux amphétamines, ne pouvant plus toucher à l'héro. Lou quitte Syracuse en juin 64 avec une licence d'anglais et évite l'armée pour cause d'hépatite grâce à un comportement sous placidil, un hypnotique puissant. Il intègre le label Pickwick comme compositeur. Pendant 6 mois, il fera l'aller-retour Freeport Studio pour $25 la semaine. Pendant que Delmore Schwartz se retourne dans sa tombe, Reed n'aura jamais fait de travail plus vulgaire, préfabriqué et bâclé. Pickwick se spécialise dans la production du disque à la mode 2, vendu $1 dans les supermarchés. Mais il écrit jour et nuit et acquiert une expérience essentielle, que ce soit sur l'enregistrement en studio et la production mainstream de l'industrie du disque. Il fait partie du pool d'auteurs présents sur la plupart des morceaux. Si ce n'est pas Brill Building, la machine à tube des 70s, Pickwick fait du fric. Et tous ceux qui y approchèrent Lou témoignent de son talent et de son aura. Selon une interview, il avait à la même époque écrit tout ce qui composera le premier album du Velvet. Il aura toujours une longueur d'avance, disait John Cale à propos de Lou Reed. John Cale aura une enfance difficile avec des parents non communicants, sa mère ne parlant qu'en gaélique, et son père absent. Il est élevé par sa grand-mère. Il contracte une bronchite aggravée à 7 ans, sera traité à la codéine et ses effets hallucinogènes. À 12 ans, il est violé par l'organiste de l'église. En pleine dépression à 16 ans après le cancer de sa mère, il sera mis à l'isolement pendant plusieurs semaines en hôpital psychiatrique. Il rencontre heureusement très tôt la musique, le piano dès 7 ans, se met à composer, devient un élève brillant et participe à 12 ans, comme altiste, à une tournée en Europe avec le Welsh Youth Orchestra. Il intègre l'école de musique du Goldsmiths College et sera invité par Aaron Copland en 63 à entrer au Berkshire Music Center of Tanglewood dans le Massachusetts et quitte le pays de Galles. Pour son dernier jour au Goldsmith College, après avoir terminé ses études avec la composition Sonate pour alto de Hindemith, il participe à un petit festival de musique contemporaine. Il joue du piano sur la première britannique de Higgs for Henry Flint de la Monte Young. Il dirigera une œuvre de John Cage et jouera différentes pièces pour piano préparé. Sur une représentation de l'œuvre de la Monte Young, il finira à genoux, martelant en rythme le clavier avec ses coudes. Le public essaya alors de lui retirer le piano. Cela devenait subversif compte tenu des objectifs fixés par Goldsmith. John Kay, lui aussi, aura frissonné au son de Voice of America, à l'écoute d'Elvis Presley, de Bill Haley, Lonnie Donegan ou John Coltrane. Lui aussi aura rapidement cultivé une vaste curiosité intellectuelle et musicale, tout particulièrement pour l'histoire, la philosophie et John Cage. Mais Cage n'attendait qu'une chose, partir pour New York. En 1963, il a sa carte verte grâce à l'obtention de la bourse Leonard Bernstein qui lui permet d'intégrer le conservatoire Eastman à Tanglewood pour y apprendre la composition contemporaine. Il est accueilli par Aaron Copland et débute son année. Au programme, Yanis Xenakis. Ne cessera pendant cette période de participer et d'initier des concerts jouant des œuvres de manière provocante. 6 mois plus tard, il s'installe à New York. Il travaille dans la librairie du régisseur Lumière de Cage et Merce Cunningham. Cage l'invite pour son prochain concert. Il lui avait donné les coordonnées de la montée Young. Cage contacte Young qui l'invite rapidement à des répétitions en présence de sa femme et de Tony Conrad au violon. Il s'installera par la suite comme colocataire chez Conrad, au 56 Ludlow Street. Young n'avait aucun doute sur les compétences musicales de Cale et le fait bientôt participer à l'aventure du Dream Syndicate, Theater of Eternal Music. Sa prestation la plus remarquable fut avec John Cage, la création d'un concert, une performance musicale de 18 heures avec de multiples pianistes, des vexations d'Eric Satie. Il ne sut que plus tard que Warhol était présent. Cet événement lui offre plus de publicité que toutes ses activités antérieures. Le travail de Lou Reed chez Pickwick lui permet d'enregistrer à la demande de Jerry Vance, comme leader d'un groupe qui n'existe pas, The Primitives, The Ostrich. The Ostrich est une chanson parodique dédiée à une danse loufoque et l'importance des plumes d'autruche dans la mode. Une chanson anarchique, Lou Reed s'y révèle sous son aspect déjanté, sa voix et ses cris mêlés à un son garage grungy à la Phil Spector. Le son repose sur l'accordage des guitares sur la même note, le Pickwick Tuning. Il est à mi-chemin entre la poésie hippie et le rock'n'roll décapant. Afin de faire tourner la chanson, Jerry Vance demande à Lou de créer un groupe. Cale écoute de plus en plus de rock. Tony Conrad, qui faisait partie de la formation de la Monte Young, amènera Cale au rock avec sa collection de disques de la British Invasion. L'ambiance était au fait explosive où les talent scouts de Pickwick se mêlaient à toute une faune underground. C'est Terry Phillips qui repère John Cale et Tony Conrad et les fit rencontrer Lou Reed. En écoutant The Ostrich et son accordage original, l'expérience les motive à intégrer les Primitives. Après une tournée avec le groupe début 65, le rock trash de Lou Reed combiné à l'avant-gardisme de John Cale sont complémentaires. Sur leur lancée, Cale continue avec Young et Reed mouline chez Pickwick. Cale ne prend pas goût aux ballades folk de Reed. Il voit son travail chez Pickwick comme assez vulgaire. Mais en lisant les paroles de titres comme Héroïne et I'm Waiting for the Man, il découvre le talent d'écriture de Reed, ce qui renforcera son lien avec lui. Ce qui m'intéressait, c'était les sujets qui n'avaient pas été traités par la pop et le rock, rappelle Reed dans un documentaire. Je rêvais d'écrire sur certaines choses, j'étais influencé par Burroughs, Ginsberg, Chandler et Hubert Selby Jr. Je me suis dit que je voulais faire pareil, mais avec une guitare et une batterie. Cale, face à la frustration de Reed et son travail chez Pickwick, lui dit qu'ils aillent se faire foutre, on va le faire quand même. Lou devient le colocataire de Cale au 56 Ludlow Street et le travail entre les deux s'intensifie. Pour Reed, la situation chez Pickwick atteint le point de non-retour. Le numéro 2 de la boîte refusant la production de morceaux tels que Héroïne, même si certains savaient le talent de Reed digne d'intérêt, l'aventure prit fin. Nous sommes en 65 et John et Lou sont les seuls membres de leur groupe. Sous le nom des Warlocks, puis des Falling Spikes, Spike, Aiguille, Héroïne, l'arrivée de Sterling Morrison et Angus McLise va sceller les bases de l'explosion à venir. En avril, Lou croise dans le métro Sterling Morrison qui se rend au City College où il étudie la littérature anglaise. Visiblement sans un sou, Morrison ne tarde pas à rejoindre son ami et prend la guitare à côté de Lou et John Cale. Il n'a pas l'expérience du studio et de la scène qu'ont ses partenaires, mais celui qui fut le seul membre permanent du Velvet Underground apporta un jeu de guitare plus fluide et assuré que Lou et ne manquait pas d'un humour froid qui favorisait la concentration au milieu de l'exubérance du groupe. Son idole était Mickey Baker, et il jouait vraiment comme lui, c'était du pur rock'n'roll, compensant le son plus cérébral et improvisé de Cale et Reed. Of all the things I've done for you, who'd think that you would be untrue? If I'm untrue, don't blame for me, 'cause it was you who made me see I had better. Quant à Angus McLise, voisin de Cale Ludlow Street, il vient répéter aux percussions avec le trio. McLise est un très bon percussionniste. Sa culture, ses expérimentations avec la monte ont fait de lui quelqu'un d'unique, une sorte de poète trimballant ses tablas et jouant sur tout ce qu'il trouvait. Consommant du speed, Lou lui emboîta le pas. Mais son refus de se plier à des horaires fixes en faisait un membre instable qui rendait délicate sa participation. Sa poésie le tenait, à l'aune de sa vie, comme distant des choses et un peu trop noyé dans les drogues. On pouvait entendre ses percussions en lisant ses textes, dira sa femme. Le groupe se produit à plusieurs reprises dans le cadre d'un spectacle multimédia organisé par Pierrot Elixir, cinéaste underground proche de McLise, mêlant projection sur écran et voile pendant un peu partout au-dessus du public. Les musiciens jouant derrière l'écran pendant que les danseurs occupaient la scène. L'événement a lieu à la Filmmakers Cinematheque, dirigée par Jonas Mekas, bien connu du milieu et d'Andy Warhol. Le groupe sentait qu'il était possible de proposer une musique différente à un public plus curieux. And if you close the door, the night could last forever. Leave the sun shine out and say hello to never. All the people are dancing. On va fermer la porte, mais je l'ouvrirai la semaine prochaine, même jour, même heure. Bonne nuit. 'Cause if you close the door, I'd never have to see the day again. I'd never have to see the day again. Once more, I'd never have to see the day again.